foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Claire Bresselette.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être venue à Radio Présence, mais vous venez assez régulièrement, j'allais dire, vous nous avez enchantés à Pâques avec les chants. Et en fait, j'ai connu surtout votre papa, Michel, à l'université, quand il avait des responsabilités. Et nous étions, disons, un peu du même syndicat. Et j'admirais ses valeurs et son engagement dans le cadre de l'Église. Et vous, vous êtes spécialiste de Jacques Maritain. Vous êtes organiste et vous allez nous parler d'une association que vous avez créée qui s'appelle...
Culture au village.
Voilà.
C'est une association créée dans la maison paternelle et familiale après la mort de maman il y a un an. Et elle a pour vocation finalement de donner de la culture de manière familiale et pas institutionnelle. Elle propose 4 activités, des concerts, des conférences, des ateliers et un lieu finalement pour prier. Il y a 2 ermitages implantés dans le jardin. Pour ceux qui veulent se retirer alors qu'ils ont très peu de temps.
Alors ça, c'était la deuxième partie de notre émission. La première partie, c'est votre éducation. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes une battante, une croyante et que vous avez des convictions?
Alors, je crois qu'on a beaucoup reçu de nos parents. Maman, physicienne convertie, elle n'était pas croyante. Elle est normalienne et le groupe Tala de Normal Sup l'emmène écouter le cardinal Danielou, qui est l'aumônier de Sèvres.
Tala, pour ceux qui ne sont pas dans la branche, il faut dire
ceux qui vont à la messe.
Voilà. Ce qu'on a dit, que Michel Bresselette allait imposer à tous les étudiants du Mirail, même aux libres penseurs, d'aller dans une chapelle à côté du château. Passons là-dessus, n'est-ce pas? Mais il y a des engagements qui font qu'on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde.
Exactement. Alors, papa était justement un chrétien convaincu, mais qui avait aussi la conviction de la culture, en disant finalement, la messe, il faut y aller parce que ça fait partie de notre culture européenne. Alors, papa et maman nous ont transmis un christianisme, j'allais dire, d'humilité. On n'a pas eu de sentiment qu'il y avait d'un côté la vie de carrière, mettons, d'enseignant, et d'un côté la foi. Au contraire, ils ont été très marqués, par exemple, par le père Sérac, qui est venu à Toulouse il y a 35 ans et qui a dit finalement... tout le monde cherche à grandir dans la société, le chrétien cherche à diminuer. Voilà, des phrases toutes simples. Une autre phrase qui fait leur pédagogie, élever un enfant, c'est l'élever à ses propres yeux. Donc on voit très bien qu'ils nous ont donné finalement une foi solide, simple, joyeuse et très saine, c'est-à-dire au service. L'émission « Ma foi, j'y crois », vous avez parlé de conviction en préparant l'émission. Je dirais que chez eux, c'est vraiment une... On passe de la conviction à la responsabilité, comme dirait Max Weber, et encore plus pour eux. On passe à l'expropriation du soi. Papa n'a pas d'ego. Il fait un service en fonction du feu qu'il habite. C'est un homme de feu. Et maman, finalement... convertie par le cardinal Danielou, va suivre la même mouvance. Elle est rationnelle, scientifique, physicienne. Papa a un tempérament beaucoup plus artiste. Il est poète. Ses collègues du Mirail le savent. C'était une bibliothèque ambulante parce que le fait de poétiser le réel, on se promène, on a un flot de vers qui arrive au moment du pique-nique. Eh bien, cette manière de vivre au monde est déjà un palier pour finalement dire la gloire de Dieu, tout simplement.
Je pense que dans son travail, c'est un des rares enseignants à l'époque où il pouvait parler de la Bible de manière laïque. Au sens où, bon, c'est une production humaine. Et en même temps, jamais personne ne lui a reproché parce qu'il savait trouver les mots justes. Alors, la laïcité pour vous, puisque ça fait partie d'une des questions, vous êtes professeur de lettres.
Je suis professeur de lettres dans l'enseignement public et j'y tiens. Parce que les parents ont toujours été... convaincu qu'il fallait être finalement le levain dans la pâte. Alors vous avez prononcé des mots importants, Bible et laïcité. Papa était convaincu que le christianisme est finalement le ferment de la laïcité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et finalement, dans l'articulation profane-sacrée, il y a un troisième terme qui permet d'aller plus loin, plus haut ou plus profond, c'est la sainteté. Et il nous est demandé d'être saints. Alors, avec son ami Montabru, il avait fondé un groupe rue de la Dalbade d'études de la Bible avec les étudiants. Au Mirail, vous en avez parlé, il voulait qu'il y ait une cellule d'explication et de connaissance de la Bible. Avec un autre groupe dans l'Ariège, il avait fondé la Bible Patrimoine. Il insistait sur le fait que la Bible soit une bibliothèque de 71 livres. Et dans le secteur, il a fondé un groupe Jérôme, et pas Saint Jérôme, pour que ce soit ouvert à tous, croyants, non-croyants et religions différentes. Donc on a un bibliste convaincu, un laïc convaincu, parce que le chrétien est un levain dans la pâte à la manière de Maritain, de Humanisme intégral, 1936, où il s'agit finalement de la sainteté et non pas de l'articulation sacré-profane.
Oui, vous avez parlé de Maurice Montabru, que j'ai bien connu lorsque nous avions un groupe de la paroisse universitaire. Mais ce groupe maintenant doit se rénover, se réformer. Il reste encore au niveau de l'ensemble de la France un groupe dont nous parlerons peut-être une autre occasion, mais c'est les chrétiens de l'enseignement public avec oui. Une revue, Ligne de Crête, où vraiment ce sont des enseignants qui ne parlent pas de leur foi mais qui la vivent. C'est toute la nuance. Vous avez parlé de la phrase de Jean-Baptiste, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Donc ne pas avoir cet égo dont nous ont parlé plusieurs personnes, des bouddhistes. Donc c'est universel, cette question de laisser peut-être l'égo diminuer. Alors Maritain, c'est ça justement, cette sainteté au jour le jour?
Maritain, c'est cette sainteté vue à travers, je dirais, deux prismes. Celui du petit troupeau, c'est ce qu'il a vécu avec Raïssa, son épouse, et puis Vera Oumantsov, la sœur de Raïssa, qui vivait avec eux. Et donc ce petit troupeau et ces îles, c'est-à-dire plusieurs petits troupeaux, il ne s'agit pas de faire nombre, mais d'être au contraire dans un approfondissement dans l'horizon. Et le deuxième prisme de Maritain, c'est une formule qu'il a à la fin des degrés du savoir, où il parle de l'expropriation de soi, en commentant les écrits de Saint Jean de la Croix. Alors, ce sont ces deux, c'est-à-dire ces deux piliers qui ont habité les parents parce qu'ils ont connu Jacques Maritain, ils sont venus souvent le voir dans sa cabane de petit frère de Foucault à Toulouse. Mais c'est aussi une foi dans le Logos. Et vous avez très bien mis le doigt sur le problème actuel d'institutions comme la paroisse universitaire ou même comme les semaines sociales de Toulouse, qui sont des institutions en perte de vitesse, parce qu'on a de moins en moins de jeunes enseignants intéressés par la pensée, par la réflexion, comme si il y avait une logorée inefficace sur le réel. Alors que chez les parents, dans leur foi, le verbe s'est fait chair, il s'agit d'un verbe incarné qui donne une impulsion pour l'agir.
Mais on a trop l'impression peut-être que la mystique, c'est ce qui nous éloigne du rat des pâquerettes, comme dirait l'un des producteurs à Radio Notre-Dame. Au rat des pâquerettes, on peut trouver à la fois la spiritualité, mais aussi cette poésie qu'est la musique. Vous êtes organiste, donc c'est une autre dimension de votre personnalité qui vous permet de tenir peut-être, lorsqu'il y aurait trop d'abstraction, trop de... Les études, ça peut rendre le cœur tout sec, ça peut nous faire échapper de la foi. Tout à l'heure, on parlait de la Bible, mais alors la Bible, c'est quoi? C'est trop sec si on ne médite pas?
Ah là, vous me faites plaisir. L'or, pour moi, c'est une onction. Une onction, je dis bien une onction, parce qu'on est dans une église, on n'est pas propriétaire de son instrument, et l'organiste véritable joue la nuit. Il joue seul, et c'est quelque chose d'extraordinaire de travailler et de sortir dans une ville endormie, déserte. Alors vous avez parlé de cœur sec et je reprends l'expression de Maritain qui permet cet équilibre. Maritain dit « Beaucoup ont le cœur sec et l'esprit mou. Il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. » Et finalement, cette onction de la musique est à la fois un travail intellectuel, une fugue de Bach, c'est aussi une construction, mais le son, le jeu, il s'agit de jouer, touche le cœur, il s'agit de rentrer dans la joie. Quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un de joyeux.
Toutes les oreilles qui sont habituées à Bach ou à Mozart n'écouteront peut-être pas agréablement Messiaen. Vous avez choisi un morceau que nous allons écouter.
Oui.
C'est pas toujours, agréable aux oreilles de ceux qui vont dans les supermarchés.
C'est vrai, mais c'est déjà cependant daté. C'est une musique qui n'est pas contemporaine, que j'aime particulièrement parce que j'ai eu plusieurs maîtres, dont Louis Thierry, décédé il y a un an, et qui aimait particulièrement Messiaen puisqu'il en a joué l'intégrale, qui est un CD de référence. Alors, il s'agit ici d'une pièce courte, Les Enfants de Dieu, que j'ai jouée à la mort de l'abbé Pierre. Et pour moi, tous ces sauvés d'Emmaüs, finalement, ces sauvés de la rue par l'abbé Pierre, étaient pour moi les Enfants de Dieu. Et donc, c'est une pièce, vous allez voir, qui est particulièrement évocatrice.
On va l'entendre parce qu'en fait, il y a une très belle musique aussi lorsqu'on voit l'organiste qui joue sur le site.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Claire Bresselette.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous êtes professeur de lettres, vous êtes spécialiste de Jacques Maritain, nous allons y revenir, mais vous êtes aussi organiste et vous avez choisi ce morceau de Messiaen.
Parce que j'aime Messiaen, Louis Thierry aimait particulièrement Messiaen, Louis Thierry, professeur à Rouen, et je disais que c'est une musique qui n'est pas contemporaine et qui pourtant paraît très très moderne, oui, parce qu'il s'agit de valeur ajoutée, donc on n'est pas dans une mesure, une carrure à 3 temps ou à 6-8 ou à 2 temps. Et puis il est marqué par le dodécaphonisme, donc le livre d'orgue et toute une recherche sur la gamme et la musique finalement en série d'après un schéma qui passe par les tons. Et c'est ce qui fait qu'on est dérangé pour une oreille habituée au 1, 4, 5, qui sont les 3 degrés basiques de la musique de variété.
Il faut que vous veniez le samedi matin pour parler dans l'émission spéciale de la musique. On vous écouterait pendant des heures ou des minutes. Et alors, cette musique vous aide dans votre recherche d'une certaine sérénité?
Tout à fait. En fait, la musique pour moi n'est pas un divertissement, c'est une nourriture. Et c'est parmi tous les arts probablement le plus spirituel parce qu'une fois qu'on a entendu une mesure, elle n'est déjà plus là. C'est là dans la durée, hein, des pages magnifiques ont été écrites là-dessus. C'est aussi le plus intérieur parce qu'il fait appel à l'œil, à l'oreille, dont le complément est l'œil, mais l'oreille reste pour saint Benoît. Écoute, mon fils, incline l'oreille de ton cœur, l'ouverture de la règle, et donc l'ouverture du sens interne. Et pour moi, la musique, voilà, est vraiment une nourriture, une pratique quotidienne au clavier. Alors, pendant le confinement, c'est plutôt le piano, et là, j'ai redécouvert Chopin. Vraiment, c'est splendide. Et puis, le chant. J'ai fait un peu de chant en Roumanie, et c'est comment devenir finalement soi-même un tuyau vivant, faire passer l'air dans le corps et donner une liberté au son. Tout ça fait que la musique n'est pas annexe à ma vie, elle est centrale.
Et vous voulez la faire partager, entre autres dans l'association que vous avez créée?
Oui, l'association Culture au Village est vraiment orientée sur la musique. Le théâtre est occupé dans le village de Rouffiac-Tolosan par une excellente association qui s'appelle Les Couleurs de la Comédie. Et donc, nous avons utilisé le créneau un peu manquant, c'est-à-dire musique, poésie et philosophie. Nous proposerons l'année prochaine un samedi par mois, de 9h à midi, d'initiation à la philosophie, surtout à partir de la philosophie réaliste, puisque je connais bien Maritain, ou un petit peu, pour pouvoir en parler.
Qui n'est pas assez connu des Toulousains.
Et oui.
Donc, nous referons des émissions sur cette philosophie. Vous pouvez la préciser en deux mots?
Oui, en deux mots. L'idéalisme, on va dire d'un côté, qui sépare finalement le monde des idées et celui de la matière. On pourrait dire que c'est l'héritage de Platon. On parle du dualisme platonicien. D'un autre côté, vous avez le matérialisme. On pourrait dire que le pragmatisme, qui en ce moment reprend finalement le devant de la scène, est un héritage du matérialisme. Et entre les deux, vous avez le réalisme. Et je pense qu'on ne ferait pas tort à Jacques Maritain en parlant de la philosophie réaliste plus que thomiste, parce qu'il trouvait toujours triste de limiter au nom, si grand soit-il, hein, de saint Thomas d'Aquin, toute une veine qui est une philosophie finalement réaliste.
Le réalisme permet de trouver des solutions à la crise actuelle que nous traversons?
Je le pense, parce que la crise que nous traversons, c'est un problème d'incarnation. Je ferai écho à l'émission juste après l'incendie de Notre-Dame de Paris, sur France Culture, le samedi matin, avec Hubert Védrine, qui commentait la représentation, finalement, de l'euro. Il disait, on a sur les billets d'euros des cathédrales, mais on n'a pas la cathédrale de Paris, la cathédrale de Cologne. Et il disait, on est tombé dans un nominalisme ambiant qui fait qu'on est déréalisé. Or, l'incendie de Notre-Dame montre que le monde entier a besoin de réel, parce que les poutres qui ont flambé étaient notre lien avec le Moyen-Âge. Donc, il y a eu un émoi mondial et j'ai beaucoup aimé cette émission, cette intervention, parce que je pense que justement, le réalisme, c'est-à-dire le détail concret, notre incarnation, hic et nunc, peuvent avoir un sens dans l'idéalisme ambiant.
C'est une culture et en même temps, ça ouvre donc sur autre chose peut-être, sur la religion, à ceux qui ne croient pas forcément à la Trinité, mais qui croient à une certaine transcendance de l'homme appelé à autre que lui-même.
Oui, alors on peut prendre la définition d'Aristote qui dit que l'homme est fait pour se dépasser lui-même. Et finalement, si l'homme n'est pas appuyé sur une définition qui le dépasse, qu'on peut appeler le bien, le bon, les transcendantaux, on se trompe. Donc le discours sécuritaire, le discours pragmatique qui réduisent l'homme à finalement ce qu'il n'est pas, ne peuvent qu'entraîner une déception de l'humanité d'elle-même.
Alors un conflit. Il se découvre quand il ne peut pas rencontrer l'autre qui est différent de lui-même.
Exactement. Parce que le premier pas de réel, c'est l'altérité et l'autre différent de soi et le tout autre qui est Dieu, radicalement différent de l'homme et cependant proche en religion chrétienne par le mystère de l'incarnation du Verbe.
Oui, mais en même temps, l'autre qui est en soi et qui fait que nous sommes divisés, qui a toujours une part, on l'appelle Satan, on l'appelle le diviseur, mais on est tendu entre un désir de ce qu'on n'a pas.
C'est très juste.
Et qui n'est jamais assouvi.
Le Mgr Perrier répondait à un journaliste qui lui disait « Mais vous n'êtes pas en train de douter, vous avez la foi. » Et il lui disait « Détrompez-vous, le premier athée que je rencontre, c'est moi, tous les matins. » Et je pense que la foi, voilà, ce n'est pas, c'est une tension. Il y a une foi articulée sur le dogme, et heureusement. Et puis, il y a cette tension comme une marche. Quand vous levez le pied, vous êtes en déséquilibre, c'est ce qui vous permet d'avancer. Et la foi, c'est une avancée parce qu'il y a en nous toujours le vieil homme et puis l'homme nouveau.
Vous avez parlé de Saint-Benoît, vous avez parlé des mystiques, on pourrait parler de Sainte-Thérèse. On est là dans un panthéon de personnes qui sont mortes.
Oui, mais il y a des
personnes. Et qui sont vivantes encore.
Ah oui, alors là, je crois beaucoup à cette communion des saints, à cette présence finalement du monde de la patrie dans notre monde du pèlerinage, puisque nous sommes in via. Et je crois vraiment à cette communication des deux mondes qui rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que la visée de l'homme est de se dépasser, elle est au-delà de lui-même. Et du coup, on vit avec ces vivants qui sont plus vivants que nous, qui sont plus proches de celui qui est la vie, c'est-à-dire de Dieu. C'est nous qui sommes plus morts que les défunts.
Et vous arrivez à captiver vos étudiants lorsque vous parlez des œuvres de la littérature contemporaine ou de la littérature du programme de l'université ou de l'école ?
Alors, c'est très compliqué parce que je trouve que ce qui fait un enseignant, c'est d'abord professeur, proférer une parole, c'est le feu, c'est la passion. Or, tout l'enseignement actuellement vise à estomper ce rapport direct. On nous demande des notes sur Internet, des cours sur Internet, une vérification, des doodles. Et pour moi, c'est un combat quotidien contre ceux qui nous le demandent. Et je suis, j'allais dire, mauvais élève. Je fais l'école buissonnière de l'enseignant pour rester professeur. La grande philosophie s'est véhiculée par l'oralité, les péripatéticiens qui marchaient. Socrate et Jésus-Christ n'ont rien écrit. Et je crois qu'il faut garder cette force de l'oralité et de la transmission orale.
Dans un collège à Dakar, j'avais lu cette phrase extraordinaire. Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. On pense à Daniel Berthier, aux apprentis d'Auteuil. Ce n'est pas une question de niveau de diplôme. C'est une question de ce feu qu'on a en soi et qu'on peut transmettre. Et peut-être c'est ça aussi la foi. Transmettre ce que vos parents vous ont transmis, ce que vous retrouvez et que vous allez transmettre aussi avec la vulgarisation des œuvres de Maritain.
Oui, alors là, vous tombez juste. Pour moi, la foi est un feu. Il s'agit d'enflammer des cœurs plutôt que de remplir des têtes. Et tout le propos de Culture au village, c'est justement de croiser les arts pour donner le feu dans une société où le désir semble éteint. On a l'impression d'hommes tellement pris par les tâches administratives, le flux quotidien, que notre propos est de donner une étincelle.
Et vous avez déjà plein de projets alors pour la rentrée en septembre?
Oui, en septembre. Et puis dès la semaine prochaine, nous déconfinons en douceur avec une exposition de sculpture.
La semaine prochaine, ça veut dire que c'était il y a 8 jours, parce que cette émission est en différé. Pardon.
La semaine prochaine aussi, puisque le 28, il y aura encore les statues dans le jardin. 4 sculpteuses, Cassie de Tournebise, professeur au Mirail, angliciste de renom, qui a écrit un livre sur l'idée de nature dans les jardins. Et elle vient le commenter, le signer au 10 chemin du Barry à Rouffiac-Tolosan.
C'est la culture au village.
Voilà.
Eh bien, et la maison accueillera, donc c'est dur au niveau administratif à régler des problèmes concrets, très terre-à-terre cette fois-ci.
Pour l'instant, on a un très bon bureau. C'est un bureau d'hommes et de femmes très dévoués, très généreux. Et on s'en sort comme une petite embarcation qui n'a pas besoin finalement de grands éléments. Un petit radeau s'en sort toujours sur les rapides. C'est le paquebot qui coule.
Eh bien, et vous avez prévu une petite phrase pour que chacun puisse la garder dans son cœur,
oui,
pour terminer cette émission, tout en disant merci à Christophe de nous avoir enregistrés.
Merci. Et la phrase est de Maritain. La voici. Dans ma jeunesse, j'ai cassé des vitres, puis j'ai tâché d'ouvrir des portes. D'anarchiste qu'il était, il est devenu un conciliateur.
Et c'est son message que vous nous apportez. Merci Claire.
Merci à vous encore.
À bientôt.
À bientôt.